avec la Bible. C'était l'idée de cela, c'est qu'on veut asseoir cette notion de maison de prière que nous avons, je vous rappelle, les lundis matins, mardi matin après-midi, jeudi matin, ici au caveau en bas. Et on veut relire simplement en introduction le verset de Exode 33, versets 7 à 11. C'est Moïse prit la tente, la dressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation, de la rencontre. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple suivait, se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente, suivait des yeux Moïse, jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait, s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait, se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Et puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Noun, ne sortait pas du milieu de la tente. Je vous rappelle, on fait juste un petit récapitulatif de ce qu'on a déjà dit. Mais en tant qu'église Josué, on a quelque chose au niveau de l'identité dans ce nom. Et cette identité, c'est à la fois le côté de la guerre et de la prise de terrain, mais c'est aussi le côté de l'intimité avec Dieu. Ça paraît un peu deux extrêmes. C'est absolument phénoménal, ces extrêmes. Et c'est pourtant le cœur de Josué. Il n'y a pas de guerre possible. Il n'y a pas de terrain qu'on peut prendre. Il n'y a pas d'héritage dans lequel on peut rentrer sans cette préparation dans cette tente de la rencontre et cet amour de la présence de Dieu qu'avait développé Josué encore plus que Moïse. Et donc, on avait vu ensemble que la prière... C'était Jésus, il utilisait ce modèle de prière juive, et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire récitation du Shema Israël, donc des prières qui sont connues de tous et qu'on répète, l'utilisation des symboles, alors là ça fait un peu drôle d'imaginer Jésus comme ça, mais rappelez-vous, c'est tout concorde pour dire qu'il a utilisé le châle de prière, il a utilisé les téphilines, les mezouzas, etc. Et comme tout enfant juif, qui arrivait à sa bar mitzvah à l'âge de 13 ans, il connaissait, il avait mémorisé la Torah entière. En tout cas, c'est la coutume dans l'Antiquité. On apprenait la Torah par cœur et un enfant à 13 ans pouvait vous réciter cette parole. Donc ça influençait la façon de prier. On ne priait pas selon les sentiments que nous avions, bien que la prière soit aussi l'expression des sentiments. Mais il y a cette imbibation de la parole de Dieu qui fait qu'en fait, on prie la parole de Dieu. Et c'est Jésus qui nous montre l'exemple. Il y avait aussi, rappelez-vous, la coutume des trois fois par jour. Et ces trois fois par jour nous rappellent que les grandes actions de Dieu dans l'histoire se sont faites non pas à l'occasion de prières spontanées, mais à l'occasion de prières organisées et prévues. C'est impressionnant. Vous avez par exemple le temps de Élie, lorsque le feu est tombé, sur le sacrifice d'Élie avec tous les prophètes de Baal, c'était au moment de l'offrande du soir où tous les juifs avaient coutume de venir prier. C'était à l'heure de l'offrande du soir. Nous avons vu dans Actes 3, Pierre et Jean qui montent au temple ensemble pour l'heure de la prière. C'était quelle heure? La 9e heure, c'était l'heure de la prière des juifs. Nous avons vu que la Pentecôte, pareil, c'est arrivé au moment de la prière. Donc c'est impressionnant de voir ce rythme de Dieu, des trois prières par jour, et dans ces trois prières, vous avez les plus grands événements de la Bible qui se sont passés au niveau d'intervention de Dieu. Vous avez aussi Acte 10, lorsqu'il est dit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Quand est-ce que Corneille a la vision ? Pendant la prière de l'offrande du soir, qui étaient les trois cycles de prière de journée. Donc, la méditation des Écritures, le rythme des journées, est quelque chose qui est l'héritage que les Juifs nous donnent, que Jésus nous donne. L'importance des Écritures, on l'a revu avec Josué. La première chose que Dieu lui dit, médite les Écritures, jour et nuit, tu auras du succès dans tes entreprises. Nous avons vu qu'après la destruction du temple, il n'y avait plus de sacrifices. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, les Juifs ont compris que les nouveaux sacrifices, ça serait deux choses. Ça serait la prière et ça serait les œuvres de miséricorde. Et dans l'Épître aux Hébreux, il est dit qu'il y a deux offrandes aujourd'hui, c'est l'offrande de la louange et l'offrande de la miséricorde. Ce sont les deux façons d'adorer qui ne sont plus des sacrifices d'animaux, mais qui sont des sacrifices de louange et d'œuvres de miséricorde. On avait vu que dans toute l'histoire de l'Église, la prière, ça s'apprenait. Il y avait des écoles de prière. Et on voit ça en particulier chez les Juifs, mais aussi dans toute la tradition de l'Occident au niveau du Moyen-Âge, on apprenait à prier. C'est-à-dire, il y avait de la place pour l'improvisation, mais il y avait de la place pour l'apprentissage. On a évoqué Néhémie, on a évoqué Saint Patrick, rappelez-vous, ce jeune garçon qui avait reçu une éducation où on apprenait les psaumes par cœur. Et quand il a été kidnappé, qu'il s'est retrouvé tout seul en Irlande, esclave, ayant tout perdu, sa famille, tout, eh bien là, il s'est rappelé les prières des psaumes. Et dans la forêt, tout seul, avant l'aube, avant le travail, il récitait les psaumes et Dieu l'a visité. Et c'est devenu un des plus grands évangélistes pour toucher toute l'Europe. Ça a commencé par un garçon qui a pris les psaumes. Et maintenant, on va aller plus loin. Mais quand on regarde les prières de la Bible, par exemple, si on prend la prière de Jonas, Jonas, au chapitre 1, verset 2, par exemple, Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Du séjour des morts, j'ai crié, j'ai entendu sa voix. » Eh bien, il a entendu ma voix. D'où ça vient, ça? Est-ce que ça vient de Jonas? Jonas, ici, cite les Écritures. Il cite les Écritures. Il cite les psaumes. Psaume en particulier 88, versets 1 à 7. Donc la prière de Jonas démarre avec la citation des psaumes. Il ne prie pas seulement, c'est son cœur, c'est ses sentiments, mais il traduit ses sentiments en citant la parole. Vous avez le verset 3, « Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, les courants d'eau m'ont environné, toutes les vagues, tous tes flots ont passé sur moi. » Psaume 42, il cite le psaume 42. Verset 4, je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Psaume 5, verset 8. Il continue, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Psaume 18, verset 5. L'abîme a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle. Psaume 116. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Psaume 18, 7, psaume 77, verset 12, 13, psaume 142, verset 3. Et on termine, ceux qui s'attachent, verset 9, à de vaines idoles, éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, j'accomplirai des sacrifices avec action de grâce. J'accomplirai les vœux que je t'ai faits, le salut de l'Éternel. Psaume 3, 8, psaume 50. Donc, on voit toute la tradition de la prière chez les Juifs, c'était prier la parole de Dieu. Nous avons la prière de Daniel, c'est pareil, on pourra prendre plein d'exemples, hein, je ne vais pas juste prendre des significatifs. Daniel 9, par exemple, « Je priais l'Éternel, mon Dieu, je lui fis cette confession, Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Il cite Deutéronome, chapitre 7, verset 9. C'est impressionnant. Daniel 9, il continue. « Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes, etc. » Il cite Deutéronome 27. Les grandes prières dans la Bible sont des prières de la Bible, des psaumes et de la révélation. Donc, nous avons les prières de Jésus. Là aussi, on peut se dire, mais les prières de Jésus, est-ce qu'il a comme, par exemple, le Notre Père. Le Notre Père, c'est quand même la prière de Jésus. Eh bien, si on décortique Notre Père, c'est truffé de références bibliques. Mais seulement, c'est pris là, 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 là. Ce n'est pas le but ce matin de faire ça, mais le Notre Père est enraciné dans les Écritures. Vous avez aussi, on va le voir un peu plus loin, le psaume 22, même sur la croix, quand il a dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est un psaume, mes amis. C'est le psaume 22. Donc, et le psaume 22, on va voir, il termine dans la louange et dans la gloire. Donc le fait de citer le début, ça veut dire que Jésus avait déjà pensé à la fin. Et la fin, ça nous parle de louange et de gloire et de victoire. Jésus a cité les psaumes jusqu'au dernier moment. Les prières, le modèle que Dieu nous donne, c'est prier avec la parole. Et les modèles de prière de Jésus, nous apprenons comment prier pour nos familles, nos amis, Jean 17. Comment prier pour la protection, la sécurité, Jean 17, 11, 12. Prier pour la joie dans un milieu hostile, versets 13 à 16. prier pour la sainteté cultivée par la parole, versets 17-19. Bref, décidément, les prières de Jésus sont des prières enracinées dans la parole. Que dire des prières de Paul ? Paul, il a été éduqué comme pharisien. Donc, il avait par cœur la Torah, les psaumes, une bonne partie des prophètes. Il connaissait ça par cœur. Et donc, il a appris à prier selon le rite des Juifs, c'est-à-dire à chanter les psaumes chaque jour. Paul chantait les psaumes chaque jour. Le grand apôtre Paul, il chantait. D'ailleurs, on sait très bien que quand on chante, on mémorise. Et pas seulement quand on chante, mais quand on fait des gestes aussi. Et cela, je rappelle, j'ai peut-être déjà dit ici, mais nous avons actuellement en France, il y a des écoles de mémorisation des Écritures. Ce sont les catholiques qui font ça, d'ailleurs. Et ils allient le chant, les gestes et la mémorisation. Et en 3 jours, vous apprenez l'évangile de Marc. Et moi, j'avais rencontré une Madame Stussy, qui était une enseignante au Collège Daniel, une agrégée de lettres, qui maintenant est très âgée. Mais elle avait fait une de ces écoles. Et je lui ai dit, mais comment tu as vécu ça ? Elle m'a dit, j'ai vécu une expérience qui est aussi forte que ma conversion. C'était fort, ça. Prier les Écritures, mémoriser les Écritures. Nous avons eu les réformés. La réforme, lorsqu'elle est venue, ils ont prié les psaumes. Alors les psaumes, ça a été, ils les ont mis en vers, en alexandrin, ils ont composé des musiques dessus et ils priaient les psaumes. Quand un jour je me suis intéressé un peu à l'histoire des villes, en particulier à l'histoire de la ville de Lyon, lorsque vous avez 5 jeunes gens qui ont été éduqués dans l'école chrétienne de Genève et que ces jeunes Français, ils avaient le choix ou de rester en Suisse dans la liberté, liberté de conscience, liberté religieuse à Genève, ou alors de retourner dans leur pays et c'était risquer leur vie, eh bien 5 jeunes Français, après des années d'études dans l'école chrétienne de Genève, ont reçu l'appel de Dieu pour aller évangéliser Lyon. Et là, ils ont été dénoncés sur le trajet. Ils ont été mis en prison à Lyon, condamnés à mort. Et se sachant condamnés à mort, ils ont écrit à Calvin. Il y a un échange de lettres que nous avons qui existe. Dans la prison, ils chantaient les psaumes. Ils disaient « Nous avons le ciel sur la terre ». Et lorsqu'ils sont morts, ils sont morts en chantant. Et juste après leur mort, la ville entière a été touchée par l'évangile. Et j'ai retrouvé les prières des soldats de Lyon, sur les murailles de Lyon. Ce sont les psaumes qui étaient en alexandrin et qui étaient chantés par les soldats de la ville de Lyon, lorsque Lyon, pendant 1 ou 2 ans, a été basculé dans la réforme. Donc la réforme, c'est la réforme de chant. C'est la réforme de psaumes, c'est apprendre les psaumes, c'est prier avec les psaumes. L'église du Moyen-Âge, elle a fait ça aussi. Thérèse, la carmélite, donc nous sommes chez les catholiques là, elle disait ceci, je cite, « Les carmélites font une grosse erreur en essayant de pratiquer la présence de Dieu sans la soutenir avec les mots de Dieu. Nous avons besoin d'apprendre à prier à partir des mots de Dieu. » dit-elle. Ça, et donc, elle va amener une réforme de la prière dans le mouvement carmélite. Les moines du Moyen-Âge, dont nous avons ici les dominicains, les murbars, etc., eh bien, ils ont transformé l'exercice de la prière de la Bible en un véritable art. Et c'est ce qu'on appelait la lectio divina, la lecture divine. Et vous aviez les 4 temps. Vous aviez le premier temps, lectio, c'est-à-dire la lecture, lecture attentive, récitation attentive, répétée d'un court texte. Ils n'allaient pas très loin, ils prenaient quelques versets, on les lit attentivement, on les répète. Première chose, lecture. Ensuite, méditation, effort pour comprendre le texte, le rendre personnellement significatif avec sa relation qu'il peut avoir avec le Christ. Ça, c'est la méditation. Donc, je mâche, je répète le texte, j'essaie de le comprendre. Ensuite, l'oratio, c'est la prière. Donc, je prie à partir du texte que j'ai lu. Et c'est une réponse personnelle au texte, une réponse que l'on donne à Dieu en demandant la grâce du texte, l'union à Dieu, de le comprendre en union à partir de l'interprétation de Jésus. Et ça, c'est l'oratio. Et ensuite, vous aviez le dernier stade qui était la contemplation. C'est-à-dire regarder chaque chose en détail, rentrer en contact personnel avec celui qui est la parole de Dieu, avec celui qui est le texte. Donc ça, c'est toute la tradition de 1000 ans du Moyen-Âge. On ne prie pas sans le texte, on prie à partir du texte. Ça, c'est la force de l'Église médiévale. Martin Luther, alors Martin Luther, je vous cite Martin Luther, il disait ceci, « Je vais te dire », il écrivait un conseil à un jeune, « Je vais te dire du mieux que je peux comment je prie personnellement. D'abord, quand je sens que je suis devenu tiède et sans joie dans la prière, à cause d'autres tâches ou d'autres pensées, puisque la chair et le démon entravent et gênent toujours la prière, je prends mon petit psautier, je me hâte vers ma chambre, et dans le temps qui m'est imparti, je me dis doucement et mot pour mot les 10 commandements, le credo, et si j'ai le temps, quelques mots du Christ ou de Paul, ou quelques psaumes, comme le ferait un enfant. » Donc, Luther priait la parole. D'accord ? George Whitefield, donc nous sommes là dans les revivalistes anglais, nous sommes au 19e siècle, avec aussi ami de John Wesley, il disait ceci, donc il priait à des heures le matin, midi, le soir. La pratique juive était vécue par les revivalistes anglais qui vont devenir l'église méthodiste. Il disait, prier sur chaque ligne et chaque mot. C'était la technique de prière des revivalistes. Je prends chaque verset et je prie dessus. Je prends chaque mot et je prie dessus. Donc on prie toujours à partir d'un texte. Et cet homme-là, il prêchait à peu près 40 heures par semaine. Donc le ressourcement dans la parole se faisait de cette façon-là. Dans l'église chinoise, alors là, il y a un témoignage. Donc ce que je tire ici, c'est la plupart des choses, c'est de ce livre de Campbell sur prier les Écritures. Je rappelle la citation que je vous ai donnée l'autre fois. Alors, cet homme, il est allé un jour en tant que président de ASEAN Outreach, c'est une œuvre missionnaire internationale. Il arrive en Chine. Et il va donc dans une église souterraine, et là, voilà le témoignage. Alors il dit, les sœurs chinoises suggérèrent que nous prions les uns pour les autres. J'étais le seul frère de l'assemblée. Donc en vertu de la culture chinoise, on me demanda de commencer. Je priais plus longtemps que je n'avais l'habitude de faire. J'utilisais une bonne dose de vocabulaire pieux. Je pensais suivre le modèle de l'église de Chine. Puis vint le tour de la sœur Yang. Attention là. De la manière la plus naturelle, la plus fluide qui soit, elle commença à prier dans le langage des Écritures, citant l'Épître aux Romains, remontant jusqu'à la Genèse, en passant par la lettre aux Philippiens et les psaumes. Sœur Yang utilisa les Écritures à travers toute sa prière de 10 à 15 minutes. Elle invoqua les promesses de Dieu en utilisant l'Écriture. Elle répondit à l'appel de Dieu toujours en utilisant l'Écriture. Et lorsque Sœur Yang eut fini, nous étions remplis à la fois de crainte et d'admiration. Il n'y avait absolument rien de prétentieux de sa part. Tout était naturel, tout était sincère. L'Église chinoise prie avec la parole de Dieu. Et donc, on avait parlé de ces théophanies, ces textes de la Bible qui nous parlent des visions de Dieu. Et c'était une façon, c'est une façon de prier. Et d'ailleurs, l'auteur de Madame Campbell, elle dit, c'est important de commencer. Peut-être si on commence dans cet apprentissage, dans cette école de la prière, de commencer avec les psaumes, mais aussi avec les visions de Dieu. Et dans la Bible, vous en avez dans Exode, en Ézéchiel, en Ésaïe, en Daniel, dans l'Apocalypse. Donc on prend ces textes et on commence à prier ces textes et on reste dessus. C'est ce que nous faisons dans la maison de prière régulièrement. C'est ce que nous faisons parfois dans les tabernacles où parfois Dieu nous montre un texte et on commence à le chanter et à rester dessus. Et la danse se fait sur le texte. Je sais pas si vous, il y a quelque chose qui se passe souvent comme ça, à partir d'un texte. Et que se passe-t-il lorsqu'on contemple le Seigneur alors qu'il se révèle dans sa parole ? 2 Corinthiens 3:18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Voyez, donc, vous avez aussi, dans le psaume 119, on peut trouver à peu près plus de 50 bénéfices de méditer les Écritures. Plus de 50, rien que le psaume 119, 50 promesses par rapport à prier les Écritures. Donc, il y a vraiment ici un filon, si vous voulez, une sève. Donc, prier les théophanies, les visions de Dieu, prier les psaumes, et je vous avais parlé de Jésus qui a prié le psaume 22. Ça commence par « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais dans ce psaume, vous avez les révélations, vous avez la description carrément de la croix, bien avant que la croix ait lieu. Et vous avez à la fin quelque chose d'extraordinaire, la prospérité, ceux qui te cherchent te célébreront, l'Éternel, tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront devant toi, etc. Ça, c'est la fin du psaume 22. Donc Jésus citait les psaumes, il priait les psaumes, il avait l'habitude de prier les psaumes. Vous avez les livres de la sagesse. Alors on se dit, mais comment, avec ces livres-là de Job, de Proverbes, comment je peux prier? Eh bien, par exemple, il y a des textes, je ne sais pas, chacun a ses textes un peu qui touchent son cœur particulièrement. C'est bien de ne pas rester dessus, mais c'est bien que ça veut souvent dire quelque chose. Moi, je sais qu'il y a des textes dans les Proverbes qui sont vraiment des textes phares que je prie. Ce sont par exemple le texte Proverbe 4. Les enseignants qui sont là, vous le connaissez, il faut le connaître bien ce texte-là. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche, ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas, elle te gardera, aime-la, la sagesse, elle te protégera, voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse, avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence, exalte-la. Et donc on commence, elle mettra sur ta tête une couronne, etc. On commence à prier les Écritures, et à prier les Proverbes. Et les Proverbes, il nous dit, voilà, ce qui est précieux aux yeux de Dieu, c'est la sagesse. Eh bien, on va commencer à la demander. Vous voyez, sur la base de ces textes. Ensuite, on voit que l'intelligence est précieuse aux yeux de Dieu. On va commencer à prier pour l'intelligence et à prier ces textes de Proverbe 2, Proverbe 4, etc. Le Cantique des Cantiques, alors ça, je ne vais pas revenir dessus. Très souvent ici, ça a été la base de la prière et de l'adoration, les Cantiques des Cantiques. Et ça, je vous invite à revenir dessus par rapport à l'intimité. Et puis la prière des prophètes. Alors la prière des prophètes, Daniel, prière pour les nations, hein, il s'identifie au peuple, il prie pour les nations. Nous avons des modèles, Daniel 9 est un modèle de prière d'un homme qui veut prier pour son pays. Donc prier pour son pays c'est bien, mais c'est encore mieux si on se greffe et on s'enracine dans les prières de Daniel, qui prend part et cause avec son pays, qui dit « nous » quand il parle de son pays qui s'est éloigné. Ça, c'est encore... et qui supplie. Vous avez les prières d'Ézéchias aussi, dans 2 Rois 19. Je ne vais pas les lire ici, mais ces prières des prophètes, qu'est-ce que ça fait pour nous? Ça fait qu'il y a une onction prophétique qui grandit quand on est au contact avec les prières des prophètes. Et les prières des prophètes nous donnent de voir ce que Dieu voit. Et c'est pour ça que ça ne suffit pas les prophètes. Il n'y a pas que les prophètes dans la Bible. Il y a la sagesse, il y a d'autres choses, il y a les lois. Mais les prophètes vont changer notre regard sur les choses et notre façon de prier. Et les prières apostoliques, donc dans le Nouveau Testament, alors là vous avez des prières par rapport aux les prières de Paul pour ses amis et ses disciples. Ce sont des prières extraordinaires. Quand il dit « j'aurais voulu donner ma vie, pas seulement un enseignement, je me donne à vous, Seigneur, je prie que les yeux des cœurs soient illuminés ». On retrouve, d'ailleurs on entend ces prières apostoliques, si vous faites bien attention, quand on se retrouve dans les tabernacles ou autres. Ça tourne pas mal, ces prières apostoliques. Et je crois que Dieu veut, parfois on en a une ou deux que l'on aime bien. Moi, par exemple, celle d'illuminer les yeux de nos cœurs, je l'aime beaucoup. Je rends compte parfois que je tourne autour d'une, et alors qu'il y en a tellement d'autres. Et donc, Dieu voudrait nous voilà, pas qu'on reste sur nos dadas favoris, mais qu'on puisse élargir le champ de la prière en prenant modèle des différentes prières. Et je termine bientôt. Vous avez les hymnes de l'Apocalypse, les hymnes à Dieu. Et en fait, vous avez des hymnes qui se réduisent parfois à juste deux ou trois mots. Tu es saint, tu es glorieux. Et dans les temps d'adoration, parfois, c'est là qu'il ne faut pas avoir beaucoup de paroles. Il faut juste deux ou trois mots. Quand on est dans le Saint des Saints, qu'on est dans cette présence de Dieu, suffisent. Et on prend ces Écritures. Vous avez une Française, je termine par ce témoignage, Madame Guyon, donc, qui a vécu en 1685. Moi, j'étais étonné. Quand vous allez aux États-Unis, vous allez dans des librairies évangéliques, Madame Guyon, vous avez des rayons entiers, en traduit en anglais. En France, dans les rayons évangéliques, elle n'existe pas. Elle n'est pas là. Vous la trouvez à la FNAC, vous la trouvez, mais pas dans les librairies évangéliques. Alors c'est une des chrétiennes les plus importantes au niveau de l'histoire de la France. Et dans un livre qui s'appelle « Connaître les profondeurs de Christ », écrit dans une prison, parce qu'elle était emprisonnée pour sa foi, et c'est salué d'ailleurs comme un des meilleurs ouvrages de tous les temps, elle donnait aux gens humbles une méthode pour prier. Et bien, je vous la lis, on termine par là. « Je voudrais vous adresser, bien que vous soyez débutant dans le Christ, une façon de le chercher, pour le connaître. Ce faisant, laissez-moi vous suggérer deux moyens de venir au Seigneur. J'appellerai le premier moyen, prier les Écritures. Le second moyen s'appellera apercevoir le Seigneur, attendre sa présence. Prier les Écritures est l'unique façon d'appréhender les Écritures. Cela implique à la fois de lire et de prier. Voilà comment vous devriez commencer. Tournez-vous vers l'Écriture, choisissez un passage simple, accessible, ensuite mettez-vous en présence du Seigneur et là devant lui, lisez le petit passage de l'Écriture sur lequel votre Bible est ouverte. Soyez attentif à ce que vous lisez, accueillez entièrement, doucement, attentivement ce que vous lisez. Voyez. Et ensuite, vous pouvez alors prendre cette partie des Écritures qui vous a touché et la transformer en prière. Ça, c'est Jeanne Guyon, XVIIe siècle. La prière, prier avec les Écritures. Et au niveau d'un, il y a un livre aussi qui est cité, dans ce livre qui est d'ailleurs de longues pages, c'est le livre écrit par un paysan russe du XIXe siècle qui s'appelle, le titre du livre, « Le récit du pèlerin russe ». Et ce pèlerin russe, vous trouvez ce livre dans toutes les librairies de France, c'est collection Point Sagesse, depuis 30 ans. Et ce gars-là, sa passion, c'était la prière, Paul qui dit « prier sans cesse ». Il s'est dit « mais comment je peux prier sans cesse ?» Et il a développé une recherche de Dieu et une façon de prier Dieu sans cesse. Ça, c'est le récit du pèlerin russe. Donc voilà, mes amis, voilà l'héritage que nous avons. C'est un grand héritage et je crois que ça va nous aider, nous, qui sommes un peu de tradition, je dirais, culture charismatique, de revenir à cette notion de prier l'Écriture, les Écritures, pour être enracinés et nourris de façon beaucoup plus large, beaucoup plus grande, des prières qui vont nous amener là où nous-mêmes nous ne pourrions pas aller, des prières qui sont portées par les mots mêmes de Jésus, qui est la parole de Dieu. Voilà, mais Seigneur, merci pour cette onction de Josué, ce qui est quelque part un ADN dans notre Église. Et Seigneur, aide-nous à rentrer pleinement dans cet ADN, dans cette tente de la rencontre. Nous voulons apprendre, Seigneur, à prier. Et Seigneur, merci pour ce que toute l'histoire nous révèle, pour la tradition de l'Église, la tradition juive, pour ces traditions inspirées de toi, qui nous parle et qui nous enseigne. Seigneur, que notre prière soit affermie et nourrie dans les Écritures. Seigneur, je te prie, aide-nous chacun, que personne ne se décourage, Seigneur. Au contraire, nous voulons être encouragés et nous encourager les uns les autres à développer